Bien, eh bien, bonsoir. Bonsoir pour cette nouvelle année. Je vous présente tous mes voeux ainsi que l'équipe qui organise ces conférences. Jean Mouette, ici présent, par exemple. Donc, au nom de l'Institut d'astrophysique, bienvenue et tous mes voeux. Alors, cette année, nous continuons donc cette série universitaire par deux rendez-vous. Premier rendez-vous, c'est l'éclipse de lune de ce soir, mais nous avions prévu que le temps ne serait pas favorable. Donc, nous n'avions pas déprogrammé la conférence de ce soir. Donc, le second rendez-vous, c'est celui que nous avons avec Jean-Marc ce soir, qui va nous parler donc des mots et mots de la physique contemporaine. Alors, c'est un honneur de présenter Jean-Marc. Je pense que tu es déjà venu, en tout cas ici, certainement, il me semble. Et Jean-Marc Lévy-Leblond est un acteur connu et reconnu dans le milieu en particulier de la culture scientifique. Pour ceux qui sont intéressés aux les problèmes que pose la vulgarisation scientifique et la manière dont on doit diffuser et penser la science et la réinsérer dans un contexte plus large, c'est avec Jean-Marc que nous avons eu des grandes discussions et de grands débats depuis maintenant. Une vingtaine d'années, je pense à peu près. Ça a commencé peut-être avec ton livre Autocritique de la science, paru au Seuil dans les
Ça
années
fait 30
70. Ça fait 30 ans. Moi, je n'étais pas encore physicien à l'époque et je l'ai connu beaucoup plus tard. En tout cas, maintenant, Jean-Marc travaille et est professeur à l'université de Nice et il recherche dans le département de physique et de philosophie. C'est ça. Voilà. Et il est par ailleurs. Directeur d'une revue qui est extrêmement féconde et stimulante pour ceux qui s'intéressent aux problèmes de culture scientifique, qui est la revue Alliage, dont il a apporté ici quelques éléments pour vous permettre donc d'en savoir plus et de trouver cette revue et de trouver des lectures stimulantes. Voilà, je vais m'arrêter là, te passer la parole donc pour ta conférence pendant 1 heure à peu près.
Bien, merci à Daniel, qui est d'ailleurs un auteur régulier de la revue Alliage, puisqu'il tient une chronique précisément sur les mots, en l'occurrence les mots et les noms des objets célestes. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui, par-delà le jeu de mots, que vous me pardonnerez du titre, des problèmes d'énonciation, de terminologie que pose la science contemporaine, en prenant la plupart de mes exemples dans le domaine que je connais le mieux, le mien, celui de la physique, parce qu'il me semble que c'est un angle d'attaque assez adéquat pour se poser une question plus profonde, qui est la question du partage du savoir de la science contemporaine. Comment ça se fait, d'une certaine manière, que malgré les efforts considérables auxquels Daniel faisait allusion, depuis des entreprises modestes comme notre revue Alliage jusqu'à des grandes revues, la télévision, etc. Comment ça se fait que, soyons francs, ça ne marche pas si bien? Que la transmission des connaissances se heurte à de nombreux obstacles. L'un de ceux-ci me semble être lié à la façon dont la science contemporaine traite le langage et plus particulièrement les questions du vocabulaire. C'est donc sous cet angle-là et pour cette raison que je voudrais m'interroger sur les mots de la science, les mots de la science physique en particulier. Alors, on dit souvent, les profanes souvent, ou les commentateurs disent, oui, c'est très difficile de faire passer des idées scientifiques parce que la science utilise un vocabulaire très particulier, un jargon qui lui est propre. En soi, cet argument n'est pas extrêmement convaincant parce que c'est la même chose que dans n'importe quelle activité humaine spécialisée. Il y a un jargon des boulangers, il y a un jargon des mécaniciens de l'automobile. Qui n'empêche pas ceux qui en ont le désir, je pense à la mécanique en particulier, par des activités dans lesquelles il y a un intense développement de l'amateurisme, ça n'empêche pas les gens de s'approprier, sinon l'ensemble du vocabulaire spécifique, du moins ceux dont ils ont besoin. Ce qui veut dire que la question n'est pas tellement celle d'un vocabulaire, de mots qui seraient difficiles, ésotériques ou nombreux, que la question du sens de ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Et que par conséquent, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que les mots que la science emploie aujourd'hui sont en général bien adaptés à l'usage qu'elle désire en faire ? Est-ce qu'ils désignent correctement les objets ou les concepts qui sont les siens ? Ma réponse, en gros, est non. C'est ce que je vais tenter de détailler. Donc, moins tant l'obstacle d'un vocabulaire spécialisé que l'obstacle de l'opacité du sens de son vocabulaire. Ce paradoxe, donc, de la difficulté de partager les connaissances de la science par son vocabulaire particulier, c'est un paradoxe pour la raison suivante. C'est que si vous regardez la science contemporaine, vous constaterez que, curieusement, le nombre de vocables techniques, spécialisés, particuliers, nouveaux qu'elle utilise est finalement beaucoup moindre que par le passé. Et que là, je reviendrai dans un moment, là où le 19e siècle a été un considérable créateur de termes nouveaux, et souvent de termes extrêmement sophistiqués à base de racines gréco-latines, dont un certain nombre, je reviendrai là aussi, sont passés dans l'usage courant, pour penser à énergie tout simplement, ou des mots un peu moins courants, mais comme thermodynamique, ou entropie, ou électromagnétisme, donc tous mots qui sont totalement étrangers à la langue courante et qui sont forgés de toutes pièces, eh bien, vous constaterez que le XXe siècle, en fait, a été un assez pauvre créateur de mots de ce genre-là et qu'en général, il a préféré recourir à des vocables puisés dans une langue plus courante, soit en détournant ou en utilisant à son profit un certain nombre de mots déjà existants, mots abstraits, par exemple, j'y reviendrai aussi, le mot relativité, pour donner un cas particulier, soit en créant des locutions qui sont empruntées à la langue la plus courante à base de métaphores extrêmement concrètes. Pensez, puisque nous sommes ici dans un institut d'astrophysique, au trou noir ou au Big Bang, au gros boom. Et donc, on pourrait se dire, c'est quand même curieux, parce que justement, dirait-on, les physiciens du XXe siècle, après tout, n'ont pas recouru à des mots. Il semblerait que plus la science contemporaine a créé d'idées nouvelles, moins elle a créé de mots nouveaux. D'autre part, deuxième volet du paradoxe, plus elle a créé des. Plus abstraites sont les idées auxquelles elle a donné naissance, plus concrets sont les mots auxquels elle a tenté de recourir pour les énoncer. Alors, pour être encore plus explicite et donner des exemples, voyez, à propos de mots concrets, j'ai parlé de trous noirs, j'ai parlé de Big Bang, mais pensez à une autre discipline de la physique des particules, les objets qui, au départ, les objets de la physique fondamentale, les particules dites élémentaires, la matière, ont reçu au départ des noms neufs. On les a appelés photons, protons, muons. On a créé des mots de toutes pièces. Et puis, les derniers venus, comment on les appelle ? Quark, c'est-à-dire un nom de fromage allemand. Ça veut dire quoi ? Quark est un mot qui, en vérité, désigne en allemand un fromage blanc. Et vous pouvez aller dans n'importe quel supermarché et trouver, parce que le produit circule en Europe aujourd'hui, des tartes au quark. D'où vient ce mot ? Et ça donne déjà une indication sur les processus modernes de l'absence de création, de l'innovation. Eh bien, en fait, il vient d'une astuce que, pour ma part, je ne trouve pas très drôle et pas spécialement bien vue, due à Murray Gell-Mann, très grand physicien, créateur de la théorie des quarks, qui a donc le premier à proposer l'idée que les nucléons, les constituants du noyau atomique, étaient formés, composés de trois entités plus élémentaires. Pourquoi les a-t-il baptisés quark ? Eh bien, parce que, voulant faire étalage de son érudition, il s'est référé à une citation de James Joyce. Il y a deux lignes de James Joyce, que je peux d'ailleurs vous lire quelque part, où Joyce, ce sont des vers, dit « Three quarks for Master Mark ».
Of a bark, and surely he has it all, it's all beside the bark. Donc c'est un jeu purement littératif où Joyce convoque le mot quark, qui est un mot étranger allemand, simplement parce qu'il en a besoin pour rimer avec le mot bark en anglais. Et c'est tout simplement parce que Joyce utilise ces three quarks, ces trois quarks, que Gell-Mann se saisit de la fête. Conviendrait qu'on est à la limite du sérieux qu'on peut attendre de l'innovation linguistique et que le fond de l'affaire, l'idée de composants subélémentaires n'est certainement pas correctement traduite par une telle innovation. Il y a d'ailleurs eu une proposition alternative à l'époque qui n'était pas mieux venue. C'est un autre physicien qui s'appelait Zweig qui avait eu la même idée que Gell-Mann et lui il avait proposé d'appeler ces particules des as, ce qui est encore plus absurde parce que des as en principe il y en a quatre. Toujours est-il que vous voyez là une invention conceptuelle profonde qui ne renvoie pas à une création linguistique qui soit à la hauteur.
Et puis,
ils sont dotés de propriétés tout à fait spécifiques que nul ne connaissait jusque-là, puisqu'ils appartiennent à une strate de la matière plus profonde que celle que nous connaissons, donc leurs propriétés sont inédites, elles sont plus abstraites et moins familières encore que des propriétés comme la charge électrique. Comment les physiciens les ont-ils baptisés ? Couleur. Et ils parlent de quoi ? Rouge, bleu, vert. Inutile de vous dire les confusions que ça entraîne dans les esprits non préparés, puisque évidemment, dans les articles de vulgarisation, on vous dessine des nucléons construits avec trois quarks, qu'on colorie effectivement en bleu, rouge, vert, et il est extrêmement difficile après d'aller expliquer aux profanes que le mot couleur est ici à prendre dans un sens qui n'est même pas métaphorique d'ailleurs, qui est un sens totalement figuré, qui n'a aucune réalité profonde. Donc ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas dans la physique contemporaine d'activité de réflexion systématique sur la création, le développement, l'utilisation, la critique d'un nouveau vocabulaire. Là encore, je voudrais contraster cette situation avec ce qui était une véritable activité délibérée et consciente de la part, en tout cas d'un certain nombre de physiciens au XIXe siècle. Un très bon exemple, c'est Maxwell lui-même, dont on peut lire dans les œuvres, peut-être pas les articles publiés, mais en tout cas dans toute la correspondance et dans les journaux, à quel point il est conscient de l'existence d'un problème linguistique et comment il se donne mal pour trouver des mots qui soient aussi bien adaptés que possible à ses fins, y compris quand il recourt à des mots relativement concrets. Par exemple, quand Maxwell est un des premiers à, non pas inventer, mais véritablement à généraliser et utiliser l'analyse vectorielle, il a besoin d'un concept qui est ce qu'on appelle en français le rotationnel d'un champ de vecteur. Maxwell, là, utilise la richesse sémantique de l'anglais, c'est un réservoir considérable de mots extrêmement concrets qui renvoient à une idée de quelque chose qui tourne. On voit Maxwell prendre une page pour se demander s'il va appeler ça swirl ou curl ou j'ai oublié le détail, il y a une bonne dizaine de mots en anglais, tous des petits mots concrets comme ça, qui renvoient plus ou moins à une idée de quelque chose qui tourne, mais avec des connotations, des nuances, des adhérences sémantiques différentes. Et Maxwell réfléchit à vos mots pour se demander lequel de ces mots il va choisir. Que son choix soit d'ailleurs pas, on peut en discuter. En tout cas, on voit là une activité totalement délibérée dans le choix de mots. Même chose, par exemple, dans la thermodynamique, quand Clausius crée le mot entropie, c'est à la suite d'une longue réflexion. Il voit qu'il crée un concept totalement nouveau, inédit, et il cherche un mot pour le traduire. Il va puiser dans les racines gréco-latines. C'est un mot qui se situe sur un plan conceptuel qui est à peu près le même que celui de l'énergie, pour ça qu'il y a le même degré de généralité. Donc il cherche un mot qui ait une sorte de résonance avec le mot énergie, et il va le chercher à partir des racines grecques, du tropos, et il forme ce mot de toutes pièces. Vous en connaissez la fortune, c'est un mot qui est désormais passé dans la langue en dérivant légèrement de son sens, ceci est inévitable. mais en tout cas qui est le témoignage d'une création linguistique délibérée et réussie. Rien de tel, encore une fois, dans notre siècle, où, dans le meilleur des cas, dirais-je, dans le meilleur des cas, pour désigner, et plus souvent d'ailleurs, des objets que des concepts, la remarque n'est pas innocente d'ailleurs, plus souvent on désigne des objets nouveaux que des concepts nouveaux, les physiciens ont créé des mots de toutes pièces, mais en général à partir ou d'acronymes ou de synthèses linguistiques, par exemple LASER, qui est un acronyme de Light Amplificated Stimulated Emission of Radiation. C'est probablement pas un mauvais choix, puisque ça donne un mot qui se prononce correctement en anglais, pas trop mal en français, et qui désigne quelque chose d'inédit. Donc pourquoi pas créer un mot totalement nouveau. Le mot quasar répond un peu aussi à la même stratégie, quasi stellar object, quasar. On peut dire que c'est probablement pas des choix stupides, mais je dirais que ce sont probablement parmi les meilleurs que nous ayons, et que dans le cas, au contraire, où il s'agit de désigner des idées, des concepts tout à fait nouveaux, alors là, nous sommes extrêmement en retard par rapport à ce qui serait utile. Je vais traiter maintenant, avec un peu plus de détails, trois exemples pour essayer de vous convaincre de l'état, en quelque sorte, de piètre santé de la terminologie scientifique. En prenant des exemples de relative importance que je commenterai par la suite. Alors, le premier, qui coïncide avec le début de ce siècle, c'est rien moins que le mot de relativité. Pourquoi Einstein? Puisque c'est lui, effectivement, qui emploie pour la première fois, dans un sens technique précis, le mot de principe de relativité. Pourquoi il recourt au mot relativité? Bien parce que, effectivement, ce qui l'intéresse, c'est de comparer les différents points de vue possibles qu'on peut avoir sur le monde, ce que les physiciens, dans leur jargon, appellent des référentiels. Comment compare-t-on ce que voit un monsieur qui est sur le quai d'une gare et ce que verra un passager dans le train? Évidemment, ce qu'il voit est relatif à leur point de vue, soit. Sauf que le résultat de cette théorie, son noyau dur, va être, dès le début, très rapidement en tout cas, sinon dès 1905, le premier article d'Einstein, en tout cas dès les développements formels que Minkowski va leur donner vers 1908, va être de mettre l'accent précisément non pas sur ce qui est relatif, mais au contraire justement sur ce qui est absolu. Il y a des choses qui dépendent des choses, des grandeurs, des apparences qui dépendent du point de vue. La longueur d'un objet n'est pas la même quand vous la mesurez dans un référentiel ou dans un autre, mais précisément, par-delà ces apparences relatives, ce qui est important et ce qui va constituer l'architecture fondamentale de la théorie, c'est justement ce qui est absolu, ce qui est invariant. De sorte que, assez rapidement d'ailleurs, on va s'apercevoir, et Einstein le reconnaîtra lui-même dès les années 1920, que ce choix n'était pas extrêmement important. Sa théorie de la relativité. Or, quand on regarde maintenant de plus près comment s'est fait ce choix, de façon implicite, c'est venu sur la plume d'Einstein. Pourquoi c'est venu sur la plume d'Einstein? Eh bien, c'est venu de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est venu dans un contexte idéologique et philosophique général, où le relativisme philosophique, pas grand-chose à voir avec la relativité physique, était une discipline, disons un thème philosophique, abondamment discuté à la fin du XIXe siècle. Et il y a un endroit où on repère très très bien le passage, c'est chez Poincaré. Dans le tout début des années 1900, au moment où Poincaré est sur la piste, il n'a pas découvert la théorie de la relativité en tant que théorie physique. C'est vraiment quelque chose dont je crois c'est vraiment Einstein qu'on le doit. Simplement, Poincaré a bien compris les aspects formels, mathématiques de la chose déjà. Et chez Poincaré, l'expression principe de relativité figure, mais avec un sens beaucoup plus vague, beaucoup plus ambigu qu'il va prendre justement chez Einstein. Et on voit là très clairement, sur d'autres pistes, à regarder les textes de l'époque, on voit comment un terme qui circule, disons, dans l'idéologie ambiante, va infiltrer la théorie scientifique naissante et si, en quelque sorte, s'y constituer en point d'ancrage. Alors, tout ceci est compréhensible, admissible, ce qui l'est moins, c'est que après quelques années de réflexion, compte tenu de cette autocritique, même d'une certaine façon, d'Einstein, Jean Swap a dit non, mais ça ne serait peut-être pas si mal de changer et de trouver une autre dénomination. Sommerfeld, grand physicien, qui était un des premiers à incriminer cette dénomination, disait mais il faut prendre le contre-pied absolu, il faut appeler ça théorie des invariants, théorie des absolus. C'est absolu spatio-temporel. Or, on voit bien à quel point ce choix, disons pour le moins douteux, a été très lourd de conséquences, puisqu'il a permis toute une série d'exégèses, de commentaires infondés du point de vue de la physique, mais qui ont donné lieu à quantité de dérives littéraires ou philosophiques. Mais on voit bien que c'est au sein de la physique qu'a été commis le dérapage, d'une certaine façon. En tout cas, la légèreté de ce choix. Deuxième terme qui vaut la peine de commenter en détail, c'est le mot d'incertitude, tel qu'il apparaît dans le fameux principe d'incertitude de Heisenberg. Alors, je laisserai de côté le fait qu'il ne s'agit, en tout cas du point de vue moderne, pas d'un principe, parce que c'est maintenant, ça apparaît comme une conséquence d'actions ou de principes beaucoup plus profonds de la théorie. Mais laissons ceci pour l'instant de côté, pour nous attaquer essentiellement au mot incertitude. Pourquoi ça s'appelle des incertitudes? Qu'est-ce qui est visé par? Bien, dans toute une série d'énoncés encore beaucoup trop courants, ce qu'on vous dira, c'est qu'il n'est pas possible de connaître exactement à la fois la position et la vitesse d'un objet. Qu'il y a, puisqu'on ne peut pas les connaître, c'est qu'il y a une incertitude sur cette position, sur cet objet. Une relation qui lie ces deux incertitudes. Et le paradoxe, c'est le suivant, c'est que si je dis il n'est pas possible de connaître la position et la vitesse d'un objet, c'est que, implicitement, je suppose que cet objet a une position et une vitesse dont il se trouve que je ne peux pas les connaître. Pour des raisons, alors, il s'agit d'expliquer. Ça veut donc dire que, d'une certaine façon, je persiste à penser mon objet comme s'il était encore un objet classique, une particule dotée comme une newtonienne habituelle, d'une position et d'une vitesse qui me serait masquée, auquel je n'aurais pas accès par suite de la mauvaise volonté de la nature ou de circonstances, il faudrait que je regarde en détail. Or, du point de vue de la théorie quantique développée, cohérente telle qu'il apparaît aujourd'hui, ce qui ressort clairement, c'est qu'un objet quantique, électron ou un photon, n'a pas une position et une vitesse bien définie, au sens où cette position et cette vitesse pourrait être caractérisée par un nombre unique et bien déterminé. Il en va de ses grandeurs, comme il en va d'une grandeur beaucoup plus familière, beaucoup mieux connue, et sur laquelle on s'est habitué, plus ou moins, à cette idée sans la transcrire, c'est tout simplement l'idée de fréquence. Nous savons depuis rien qu'un son, celui que je suis en train de prononcer là, n'est pas déterminé par une fréquence sonore unique. Il y a un spectre, n'importe quelle note que vous jouez sur le piano n'a pas une fréquence fondamentale, et puis plein d'harmoniques. Et un son complexe, en général, est une superposition de fréquences extraordinairement larges. Donc, personne, aujourd'hui, ne dirait qu'il y a une incertitude sur la fréquence d'un son quelconque. Seuls certains sons particuliers, monochromatiques, sont caractérisés par une fréquence unique et bien déterminée. Un son général a un timbre, donc un spectre sonore caractérisé par une certaine largeur, une certaine dispersion. Bien, quand on sait qu'en théorie quantique, à l'intermédiaire de la conscience de Planck, qui connaît d'ailleurs en 1905 la théorie de 1900. Énergie des fréquences sont liées. Évidemment, cette propriété de la fréquence, qui est qu'un phénomène vibratoire quelconque, n'est en général pas caractérisé par une fréquence unique, mais par un spectre doté d'une certaine dispersion, cette caractéristique est automatiquement transférée sur la notion d'énergie ou sur la notion de vitesse. Un électron, si je ne peux pas connaître sa vitesse, c'est qu'il n'a pas une vitesse unique et bien déterminée. Il a un spectre de vitesse. Autrement dit, l'originalité des objets quantiques, évidemment, qui a fallu un certain temps pour reconnaître, nous oblige à dépasser les notions classiques de grandeur physique comme étant caractérisées par un nombre, point c'est tout, pour avoir une notion plus riche de grandeur physique. À une grandeur physique est associé maintenant un spectre avec une certaine partie. Et les inégalités imaginaires portent non pas sur des incertitudes, c'est-à-dire sur des limites de notre connaissance, qui seraient justement liées à notre connaissance de l'objet, mais en réalité elles sont intrinsèques à l'objet lui-même et elles traduisent précisément le caractère, disons, flou des grandeurs qui le caractérisent. Un électron, en règle générale, n'est pas en un endroit donné. Il a une capacité d'occupation de l'espace qui est une capacité répartie. Pourquoi c'est important ? Bien parce que, comme je vous l'ai dit au début, continuer à parler d'incertitude laisse sous-entendu que si je ne sais pas, c'est que je ne peux pas savoir, mais que ça existe, et donc je ne rends pas justice à l'aspect véritablement fondamental et intrinsèque du concept quantique lui-même. Donc le mot incertitude est en vérité un héritage de la préhistoire de la théorie quantique qui n'est plus adapté au concept propre, autonome, pleinement développé de la théorie arrivée à son âge. Conséquemment, il continue à semer toute une série d'ambiguïtés que quiconque enseigne la théorie au niveau de la licence voit se reproduire d'année en année parce que vous utilisez un mot qui n'est pas adéquat sur l'objet et là, ça ne permet pas de faire bien comprendre l'idée qui est dessous. Alors, c'est déjà dommageable par rapport à la nécessité de transmettre le savoir à l'intérieur de la communauté physique, de la formation des futurs physiciens. C'est évidemment bien pire quand vous passez du côté de la vulgarisation du partage du savoir avec le profane, parce que alors là, le principe de la certitude de Heisenberg a été mis absolument à toutes les sauces et a donné lieu à des élucubrations absolument extraordinaires. Donc, malheureusement, je n'ai pas d'exemple ici. Le dernier en date, c'était dans Le Monde, il y a deux mois, il y avait un petit article de première page qui s'intitulait « La politique quantique de Jacques Chirac ». Et qui nous expliquait que Jacques Chirac est comme un objet quantique, on ne peut pas savoir à la fois où il est et où il va. Dans ce cas précis, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. C'est vrai qu'il y a une incertitude. Est-ce qu'il est pour autant un objet quantique ? Probablement pas. Donc la métaphore, là, tournait, est plaisante si l'on veut, mais elle n'expliquait pas véritablement les choses. Il y a plus dans cette affaire-là parce que l'histoire du mot incertitude n'est pas dépourvue d'intérêt. En vérité, quand on remonte aux sources, quand on regarde l'article initial de Heisenberg, 1927, dans lequel il introduit l'idée, on s'aperçoit qu'il introduit son principe, comme il l'appelle à l'époque encore, comme un principe de, le mot allemand qu'il utilise, c'est Unbestimmtheit. Ce qui, alors je parle sous contrôle des germanistes qui sont dans cette salle, parce que je ne suis pas moi-même, mais je travaille avec mes collègues, je me suis laissé dire que Unbestimmtheit, en réalité, ne voulait pas dire, traduit au pied de la lettre, incertitude, mais bien plutôt indétermination. Et qu'il appartient d'ailleurs au langage philosophique hegelien, entre autres, avec une connotation qui est plutôt celle d'indétermination des cellules. Vous voyez bien que ce n'est pas la même idée. Dire que quelque chose est indéterminé, c'est pas la même chose que dire qu'il est incertain. Dire que nous sommes incertains, ça veut dire que nous ne savons pas quelle est la détermination de l'objet. Dire qu'il est indéterminé, c'est dire qu'il n'a pas cette détermination. Le mot est donc préférable à cet égard, il est meilleur. En tout cas, Unbestimmtheit est certainement est traduit par la détermination, mais il se trouve d'ailleurs que dans les premiers textes de physique quantique en français, par exemple les articles de Debreuil des années 30, on parle effectivement de la détermination, du principe d'indétermination. Et qu'en italien, c'est resté. C'est une relation d'indétermination. Comment se fait-il qu'en français, là c'est un tout autre aspect qui n'est pas non plus négligeable par rapport à nos considérations, comment se fait-il que le français ait basculé dans cette idée ? Eh bien, c'est fait assez tardivement. En réalité, ça s'est fait pour l'essentiel dans l'après-guerre, dans les années, fin des années 40, et le mot incertitude nous est revenu en réalité de l'anglais. C'est l'anglo-saxon, l'américain en particulier, qui a traduit Unbestimmtheit par uncertainty, et qui nous est revenu sous une influence typiquement américaine, à la fin des années 40, sous la forme incertitude en français. Donc là, vous voyez bien à quel point l'histoire des mots convoque aussi, on peut dire, la sociologie de la science, tout simplement. L'influence, effectivement, du développement massif de la physique aux États-Unis dans l'après-guerre. En vérité, il y a là, dans ces questions de traduction, quelque chose qui est tout à fait intéressant, et dans cette fausse traduction, on voit bien les glissements de sens, les faux sens qui peuvent se produire. La science n'en a d'ailleurs pas le privilège. Il y en a un qui est très connu, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, je vous le donne, parce qu'il vaut la peine d'être connu quand même, c'est par suite d'un phénomène tout à fait du même ordre que le catholicisme a hérité du dogme de la virginité de Marie. Parce qu'il se trouve que d'où vient cette idée de virginité, il vient en fait de la traduction grecque du au Septante de la Bible hébraïque, et d'un verset prophétique qu'on trouve chez je ne sais plus quel prophète, où il est dit que la mère du Messie sera une jeune femme. Le mot hébreu veut dire tout simplement jeune femme. Mais le mot hébreu qui veut dire jeune femme ne distingue pas, comme en français, entre jeune fille et jeune femme. Il n'a aucune connotation liée à la virginité. Il se trouve qu'en grec, ça a été traduit par parthénos. Et que parthénos a été ensuite traduit en latin par virginité. Voilà comment, par série de dérapages de traduction, on hérite d'un dogme pour le moins simplifié, intéressant, probablement riche à beaucoup d'égards, mais je ne porte pas de jugement de valeur sur son intérêt, mais on voit bien à quel point la langue est porteuse. Ici, des choses intéressantes. Alors, c'est la même chose qui se passe ici pour les incertitudes de M. Agilbert. On pourrait développer une analyse tout à fait du même genre à propos du Big Bang, qui est lui aussi un choix encore pire, pourrait-on dire, à certains égards. Et on voit que là, on a affaire non plus seulement à un laxisme dans un usage incontrôlé et une espèce de dérapage par rapport au vocabulaire, mais à la substitution pratiquement délibérée d'une stratégie de communication médiatique à une stratégie, je dirais, d'approfondissement épistémologique. D'où vient le mot Big Bang ? Il vient d'un adversaire de la théorie. C'est Fred Hoyle, qui était, comme certains d'entre vous le savent, qui est un grand astrophysicien, mais qui est resté dans la minorité de plus en plus étroite qui a refusé la théorie dominante donc de l'expansion de l'univers, qui était un tenant d'une théorie d'un univers stationnaire grâce à un phénomène de création continue, qui a voulu ridiculiser la théorie naissante en disant « Mais quoi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette théorie d'un Big Bang, d'un gros mou ?» Donc c'était un terme dépréciatif. Et il se trouve, et c'est une stratégie médiatique absolument courante aujourd'hui, que ce terme péjoratif a été repris et renversé. Situation que la mode connaît parfaitement. Grunge, punk, ont subi exactement le même avatar. Des mots qui sont des mots négatifs, des mots péjoratifs, des mots dépréciatifs, sont à un moment donné repris, transformés en l'inverse par une minorité qui s'en fait un flambeau et qui les revendique. Bien de ce moment-là. Là, on assistait tout à fait à la même chose, et évidemment, l'impact médiatique est très fort. Et ça a marché. De ce point de vue-là, on peut dire que la théorie du Big Bang, ça a réussi, quant à ce qui concerne son écho public. Ce gros boom a fait suffisamment de bruit, si j'ose dire. on ne peut pas dire que du point de vue de sa compréhension, le succès soit aussi grand. Pour toute une série de raisons. D'une part, parce que la métaphore sonore est assez malvenue. Il ne s'agit évidemment pas d'un bruit. Ça encore, on pourrait dire, oui, d'accord, c'est assez vite expliqué qu'il s'agit d'ondes électromagnétiques, donc ce n'est pas du bruit, soit. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que l'idée du Big Bang renvoie à l'idée d'un événement instantané et explosif. L'explosivité d'un boom classique, le gros boom, est une explosivité locale. Et vous vous trouvez, après avoir dit Big Bang, le gros boom, dans une difficulté permanente et qui n'est absolument pas réglée, que chaque article ou livre de vulgarisation doit reprendre pour expliquer que l'expansion de l'univers ne se produit pas à partir d'un point donné, que ce n'est pas un machin qui fait comme ça, qu'il n'y a pas de centre, idée qui est déjà difficile en soi. Expliquer une expansion sans centre est difficile. Mais si en plus la théorie qui rencontre, vous la dénommez par un terme qui renvoie précisément à l'idée d'un centre, alors vous trouvez des difficultés considérables. Même chose pour l'instantanéité, une explosion, je veux dire, un instant donné. Et la théorie du Big Bang, chose qui est moins admise aujourd'hui, moins commentée en tout cas, peut-être très bien vue en réfutant totalement l'idée d'un instant temporel, tout simplement pour la raison suivante, c'est que ce fameux instant initial, si vous regardez les équations de la théorie, ce fameux instant initial n'existe pas, puisque justement, l'instant initial, c'est l'instant auquel simplement formalisme de la théorie, les équations de Friedmann-Lemaître, sont valables pour tous les temps, aussi près que vous vouliez vous rapprocher de l'instant initial, sauf à l'instant initial. Donc cet instant initial, en fait, est une sorte d'horizon. C'est pas la même idée nouvelle en physique, elle l'a connue déjà par deux fois. C'est la même idée que celle du zéro absolu, qui n'est pas une température. Vous pouvez avoir une température aussi proche que vous le voulez, le zéro absolu. Le zéro absolu lui-même n'existe pas tant qu'il est inatteignable. C'est un horizon. Eh bien, l'instant origine, de la même façon, est un horizon dans le passé. Mais cette idée, déjà encore une fois difficile à énoncer, est évidemment totalement massacrée par son énonciation avec un mot aussi lourd d'implications concrètes et d'images erronées que le mot Big Bang. On pourrait développer encore des critiques du même genre, toute une série de termes. Par exemple, l'idée de trou noir se heurterait tout à fait à la même type de critique. C'est pas un trou, c'est noir éventuellement, mais ça traduit très mal le caractère totalement inédit, totalement singulier, dans tous les sens du mot, de cet objet. D'ailleurs, aussi, il y a eu des propositions qui n'ont pas eu de succès, mais qui étaient préférables. À un moment donné, le mot circulait un peu, d'ailleurs, en français, il avait été suggéré d'appeler ça des astres occlus. Le mot n'a pas connu la fortune, c'était peut-être pas le meilleur choix, en tout cas, nous nous trouvons maintenant environnés de toute une terminologie qui est tout à fait problématique. Alors, on me dira, comment faire autrement? Parce que, dès lors que la science, c'est son objectif, va mettre en évidence des objets vraiment nouveaux, ou des concepts inédits, elle est bien obligée de leur donner des noms. Comment faire autrement que, ou emprunter des mots déjà existants et détourner leur sens, ou forger les mots de toutes pièces? Chacune de ces deux solutions à ses inconvénients. Utiliser un mot déjà existant et le détourner fait que le mot tel que vous allez l'utiliser à l'intérieur du discours scientifique va continuer à être chargé d'adhérences sémantiques qui risquent de rendre difficile l'appréhension de sa nouveauté intellectuelle. Voilà l'inconvénient. Inversement, forger des mots de toutes pièces va risquer au contraire de vous donner des mots qui seront pour le coup totalement dépourvus de ces adhérences sémantiques, de ces références culturelles qui vous permettraient de comprendre. Donc il n'y a pas de solution miracle. Et suivant les cas, on recourra ou à l'une ou à l'autre. Simplement, ce que l'on peut et doit demander, c'est que ce travail soit fait explicitement et de façon critique. Que les mots ne soient pas chez la nature, qu'ils soient proposés, discutés, débattus, et qu'ils fassent l'objet d'un consensus qui sera, en tout cas, articulé et raisonné, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et pourquoi la chose est devenue encore plus grave de nos jours qu'elle ne l'était auparavant? Eh bien, précisément, parce que en même temps où la science joue un tel rôle au niveau des représentations sociales, on voit bien à quel point des mauvais choix terminologiques vont être très lourds d'implications par rapport à des incompréhensions ou des détournements ou des exégèses malvenues. Vous avez sans doute encore dans les oreilles les échos de ce qui a fait un peu de bruit il y a 2 ans, qui s'appelait l'affaire Sokal. L'affaire Sokal, c'était le nom qu'on a donné à ce canular initialement déclenché par un physicien américain, Alan Sokal, rejoint quelques mois plus tard par un collègue belge qui s'appelle Jean Bricmont, et dans lequel ils s'en sont pris à l'utilisation de toute une partie du vocabulaire de la science moderne par des philosophes, des sociologues, des psychanalystes, des économistes, en mettant en évidence des citations, en général d'ailleurs, je veux dire, sorties de leur contexte, et donc le jeu était un peu biaisé, mais dans lequel effectivement, c'est vrai qu'on trouve chez un certain nombre d'économistes, de psychanalystes, des références soit au principe d'incertitude, soit à la théorie de la relativité, on s'aperçoit que c'est pour le moins douteux. Simplement, là où ses collègues se sont, à mon avis, arrêtés à mi-chemin, et où précisément leur démonstration n'était non seulement pas probante, mais se retournait finalement contre leur objectif, c'est qu'ils faisaient comme si les responsables de ces abus de langage, exposant l'existence, étaient essentiellement, sinon uniquement, ceux qui les commettaient, ces philosophes, économistes, psychanalystes. Comme si les physiciens eux-mêmes n'avaient pas été ceux qui avaient choisi, et comme j'essayais de tenter de vous l'expliquer, mal, à mon avis, choisi, le mot incertitude, le mot relativité. En fait, ces mots sont des mots qui appartiennent à la langue commune. Les physiciens les ont utilisés d'une façon qui n'est probablement pas la meilleure. D'une certaine façon, ils sont les premiers, au sens en tout cas chronologique du terme, les premiers responsables de leur mésusage ultérieur. Et si donc il est sans doute nécessaire et bienvenu de se tourner vers les collègues des sciences humaines et sociales en disant « Attention, chers collègues, à ne pas utiliser n'importe comment ces mots », une telle critique ne peut avoir de sens que si elle est d'abord autocritique. C'est-à-dire que si d'abord nous faisons le ménage sur notre propre pas de porte, nous reconnaissons que nous devrions avoir un rapport plus critique à nos propres langages. Alors, je ne peux que conclure ainsi en disant que ce rapport à la langue n'aura jamais de bonne solution. Pourquoi ? Bien parce que le rêve qui a été entretenu pendant un certain temps, un rêve qui remonte essentiellement à l'époque des Lumières, l'idée de doter la science d'une langue bien faite, terminologie qu'on trouve chez Condorcet en particulier, et peut-être encore même avant à Leibniz vraisemblablement, c'est un fantasme. Pourquoi c'est un fantasme? Mais parce que ça relève de l'idée qu'il pourrait y avoir une autre langue que la langue. Qu'il pourrait y avoir une langue artificielle créée de toutes pièces dans laquelle les mots seraient absolument univoques, chaque mot ne désignerait qu'une chose ou qu'une idée, et donc l'énonciation serait sans aucune ambiguïté par rapport à ce qu'elle désigne. Oui, mais ça, nous savons maintenant, la linguistique nous a suffisamment appris depuis un siècle et plus, et la psychanalyse aussi, et d'autres disciplines, pour savoir que c'est effectivement un fantasme. Pourquoi ? Parce qu'on n'échappe pas à la langue. Et une des meilleures preuves, c'est qu'y compris dans les domaines, si je me réfère à l'âge classique, où on a pu croire qu'on réalisait ce programme d'une langue bien faite à la Condorcet, et on cite souvent en exemple, ou bien la classification, la terminologie de la classification linéaire, ou bien la nomenclature chimique de Lavoisier et de ses collègues. Mais ce ne sont pas des langues. Ce sont des vocabulaires. Ce sont des séries de mots adaptés à la désignation ou des espèces vivantes ou des espèces chimiques. Ce ne sont pas des langues. Une langue ne se réduit pas à un vocabulaire. Une langue a une syntaxe. Et vous constaterez que les chimistes ou les naturalistes parlent la langue de tout le monde, y compris quand ils utilisent un vocabulaire spécifique. C'est si vrai d'ailleurs que vous constaterez que, y compris dans ces disciplines qui sont dotées de nomenclatures artificielles, pratiquement exhaustives et cohérentes, il ne s'agit en règle générale que de substantifs, éventuellement d'adjectifs, pratiquement jamais de verbes, et encore moins de toutes les articulations du langage, des prépositions, des suffixes, etc. Il n'y a très peu, ça, vous pouvez, c'est une expérience qui est intéressante à faire, prenez un article scientifique aussi spécialisé que vous voudrez, qui fourmillera de mots spécialisés, mais vous constaterez que ce sont presque uniquement des substantifs, pas mal d'adjectifs, pratiquement aucun verbe. Que très très peu de verbes proprement scientifiques. Ce qui veut donc bien dire qu'il n'existe pas une langue différente. Il existe des terminologies, des vocabulaires spécialisés, et pas d'autres langues que la langue. C'est donc dire que nous ne pouvons parler, écrire, transmettre que dans une langue, la langue, la nôtre, et que nous ne pouvons pas faire comme si nous pouvions éviter toutes ces adhérences sémantique, toute cette richesse, toute cette épaisseur, qui est à la fois un atout et un handicap, et que nous devons accepter les deux à la fois. Alors, on en voit des exemples dans, je recule encore d'un cran, dans les terminologies les plus anciennes de la science, celle de la mécanique, bonne vieille mécanique newtonienne. Pensez un peu au mot force et au mot travail, que désormais, en physique, nous utilisons sans plus y réfléchir. Parce que depuis Newton, depuis 3 siècles, c'est comme ça. Et de fait, ces deux mots, les mots force et les mots travail, ont à voir avec ce que la langue ordinaire désigne par force et travail. Donc ce ne sont sans doute pas des mauvais choix que d'avoir utilisé ces mots pour désigner des concepts élaborés, articulés, sophistiqués au sein de disciplines formalisées. Il ne faudrait pas pour autant oublier qu'ils sont quand même, ils restent, lourd de sous-entendus, parfois dangereux. Quand vous expliquez à des enfants du lycée auxquels vous introduisez pour la première fois le concept de travail, que, au sens des physiciens, prendre un sac de ciment sur vos épaules, monter 5 étages, puis descendre 5 étages, ne fait effectuer aucun travail, ça montre bien que le concept physique de travail ne recouvre pas toutes les acceptions du mot courant. Et qu'il y a là, dans ce glissement, dans cette spécialisation du mot, la perte de toute une série de connotations dont il vaudrait la peine de les expliquer sans doute mieux. Alors, vous constatez que la plupart des enseignements au niveau secondaire, au niveau universitaire, ça ne l'est jamais dit. On appellera travail la grandeur de W égale intégrale de LDL sur un parcours, etc. Jamais on ne vous dira, attention, c'est un choix terminologique de par lequel ce concept, ce mot, ne va plus signifier exactement la même chose que dans la langue de tous les jours. Donc, il me semble qu'il serait absolument nécessaire d'être beaucoup plus attentif que nous l'avons été dans les deux sens. Soit quand nous utilisons un mot tiré de la langue quotidienne, à dire, attention, voilà quelles sont les significations implicites que nous perdons, qu'il faut perdre, il faut oublier, si possible. Et dans l'autre cas, quand nous créons un mot nouveau, essayer d'expliquer quelles sont les nouvelles associations, les nouvelles références culturelles en particulier, qu'il va pouvoir transporter. En d'autres termes, ce pourquoi je plaide, c'est pour que la science soit beaucoup plus attentive à sa langue, faute de quoi je crains qu'elle parle de plus en plus dans le désert et qu'elle développe un discours qui aura les apparences d'un discours compréhensible, mais qui en réalité sera de moins en moins.
Bon, merci Jean-Marc. Donc nous allons maintenant passer aux questions, je présume que vous en avez. Puisque cette conférence a été enregistrée, vous allez attendre que je vous tende le micro pour qu'on enregistre bien votre question également.
Merci. Si je l'ai bien compris, le point de départ de cet exposé, de conférence, c'est le fait que vous avez constaté que l'esprit scientifique passe mal dans le grand public et vous attaquez, vous imputez au moins une partie de ce défaut de communication au problème de vocabulaire. Je voudrais vous poser une question qui est démontrée amplement avec les mots relativité, incertitude, big bang, la confusion que ces difficultés de vocabulaire peuvent entraîner. La question que je voudrais vous poser, c'est à l'historien des sciences que vous êtes, je crois. Enfin, vous avez des connaissances dans ce domaine-là.
L'amateur d'histoire des sciences,
soyez modeste. La question que je me pose, c'est au moment où ont surgi les nouvelles conceptions de Maxwell, des ondes, de la transmission radio, etc., qui à l'époque étaient quelque chose quand même d'assez fondamentalement nouveau, allant contre le sens commun, etc. Est-ce qu'à cette époque-là, il y a eu la même incompréhension ou les mêmes dérives que ceux que vous évoquez pour la science moderne du XXe siècle? Et les difficultés que vous signalez pour le XXe siècle, elles sont sûrement dues aux imprécisions de vocabulaire que vous nous avez démontrées, mais aussi peut-être au caractère vraiment très révolutionnaire des nouvelles conceptions de la relativité, de la physique quantique, etc.
Alors, je commence par la fin de votre question. Oui, mais c'est mon sentiment en tout cas que la relativité ou la physique quantique, pour radicalement neuves qu'elles sont, ne le sont pas plus, et je défendrai même volontiers l'idée qu'elles le sont moins, que n'ont été en leur temps les ruptures qui se sont faites assez peu de temps auparavant en vérité, c'est-à-dire quelques décennies, en 1870, 1870. Je maintiens pour ma part, mais ça c'est une thèse qui n'est pas particulière, mais qui n'est pas dominante en tout cas, hein, je le dis tout de suite, que contrairement à l'opinion reçue suivant laquelle la rupture qui sépare la physique moderne de la physique classique serait contemporaine du tout début du XXe siècle, on dit en général 1900-1905, la relativité de la physique quantique, je pense pour ma part qu'en réalité c'est bien plutôt 1860-1870, avec l'apparition dans l'œuvre de Maxwell en particulier, de la notion de champ électromagnétique, qui est une entité physique tout à fait nouvelle, un être diffus, un être non localisé, sans forme propre, sans solidité, et que donc la séparation radicale entre les idées de la physique et les intuitions courantes date, à mon avis, de ce moment-là. Pourquoi les choses ont été moins graves, je crois, qu'elles ne le sont devenues au XXe siècle? Pour deux raisons. D'une part, parce que la transmission, le partage du savoir
opérait sur des bases sociales plus limitées et sur des échelles de temps plus longues. C'est-à-dire que le rapport n'était pas immédiat et direct entre une découverte de laboratoire et, disons, une émission de télévision, journal de 20 heures. La pression médiatique, ou à l'inverse, l'utilisation des médias par la communauté scientifique ne se produisait pas du tout comme ça. Il y avait l'objectif de partage du savoir, mais il y a un objectif de long terme. Les gens pensaient qu'il fallait procéder par des activités de diffusion, puis de vulgarisation, de proche en proche, par cercles successifs, et qu'on ne s'adressait pas tout de suite, immédiatement, et comme ça, au cercle le plus large. Premier point. Deuxième point, le contexte culturel dans lequel les choses se faisaient n'était pas du tout le même. C'est-à-dire que si l'on prend l'exemple de Jean-Claude Maxwell, précisément, Clausius, Logitus, Citus, tous les gens de cette génération-là, sont des gens qui ont une formation humaniste, comme on disait encore à l'époque. Ils connaissent parfaitement le grec et le latin. Ce qui veut dire que leur conscience linguistique implicite, je ne dis pas pour autant que ce sont des linguistes et qu'ils travaillent la langue à partir de décisions conscientes et organisées, c'est pas ça. Je dis simplement que leur formation intellectuelle générale est telle qu'ils sont dans un bain culturel où la question de la langue, la question des mots est une question qui se pose et que c'est donc assez naturellement qu'ils vont, on va bien chez Clausius, ils vont chercher des racines grecques, mais qu'ils connaissent, ils maîtrisent le grec. Donc ils vont aller travailler le grec et le latin pour trouver la meilleure façon de dire les choses. Et on voit très bien chez Maxwell aussi, qui lui utilise plus volontiers des mots anglais, mais qui le fait avec une maîtrise de la langue. Il faut lire Maxwell en anglais, c'est une langue absolument merveilleuse. C'est plein d'ironie, il écrit des poèmes, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a une très très grande culture littéraire, et où donc il y a un soubassement culturel aux pratiques.
Je voudrais vous poser une question un peu dérivée de votre histoire scientifique. Au début du 19e, au début du 20e, il y a Pierre Duhem qui a fait paraître un livre, la théorie physique. Il opposait l'école anglaise de physique, des physiciens, à l'école des Français, des Allemands, des Suisses, enfin l'école des continentaux, comme étant une opposition de tournure d'esprit, et donc de langage associé, que les Anglais étaient beaucoup plus imaginatifs que les continentaux, qu'ils utilisaient beaucoup plus d'analogies que les cartésiens ou les continentaux. Et votre point de vue là-dessus, surtout que vous faites dans vos livres une critique du sabir anglais qui existe maintenant dans le domaine de la physique.
Bah, je crois que ce que disait Duhem était juste en tant que constat, c'est-à-dire qu'il se trouve que effectivement l'école anglaise est
une école qui est plus proche de l'idée de modèle, donc plus concrète, plus empirique, plus intuitive, que les continentaux. Maintenant que ça ait été un avantage, est vrai partiellement, et partiellement seulement. Et en vérité, ce que l'on voit avec le recul du temps,
nous pouvons nous féliciter d'avoir eu ces deux aspects, et que l'électromagnétisme tel qu'il est
doit beaucoup aux deux écoles, c'est-à-dire à la fois les représentations concrètes, plus imaginatives des Anglais, et puis la formalisation théorique plus sophistiquée, plus mathématisée des continentaux. C'est
une raison contingente due à l'histoire culturelle que ça
s'est focalisé comme ça, que le partage s'est fait, disons, entre le monde anglo-saxon d'un côté et le monde continental de l'autre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons besoin de ces deux démarches, et que la physique ne peut vivre que si elle est à la fois, si elle reste à la fois aussi proche que possible du concret, de l'imagination, de l'intuition, et en même temps de la formalisation et des mathématiques. Que tout le problème consiste à articuler correctement ces deux démarches et à passer de l'un à l'autre en permanence. Et c'est une question qui, là, dépasse rien des détestable.
Ce que tu as dit sur la physique dans toute ta conférence, est-ce que ça applique seulement à la physique ? Que dire d'autres
sites que la biologie ? Je ne l'ai pas préparé, mais tu es gentil de me tendre la perche, parce que je voulais dire un mot moins tant sur la chimie que sur ce qui est quand même peut-être aujourd'hui la science la plus... la clé et la plus problématique à la fois, qui est la biologie. Il me semble que dans le développement de la biologie contemporaine, c'est délibérément que je n'en ai pas parlé dans le corps de mon exposé parce que je suis à la limite de ma compétence. Là, je ne fais que vous rapporter pour l'essentiel des propos tenus par d'autres plus compétents que moi. On voit effectivement les mêmes mécanismes fonctionner avec leur positivité et leur négativité. Et là, je fais allusion en particulier à un terme qui est un terme qu'on voit tous les jours dans les journaux aujourd'hui, c'est le code. Le code génétique. Métaphore, s'il en est. Le code, il est dérivé de... Il est lui-même d'ailleurs déjà métaphorique. Le mot code est emprunté au mot codex, qui désigne en réalité un objet, qui est tout simplement le livre, par opposition au volume. Et qui... parce que les premiers livres ont été effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui des codes juridiques ou pharmacologiques. Donc le mot code, qui désigne simplement l'objet, ses feuilles empilées par opposition au boulot, devient ensuite synonyme du répertoire systématique d'un certain nombre de termes, comme c'est le cas dans le code de Napoléon, par exemple, ou dans le code de Thanos, ou dans le code de la pharmacologie de l'ordre. Et ensuite, devient utilisé par la cryptographie pour désigner tout simplement la codification, c'est-à-dire la façon de transcrire, d'attribuer à chaque terme d'une liste une représentation abstraite. Donc le codage, en tant que cette fois-ci que cryptographique, de façon de symboliser un certain type de vocabulaire. Alors, évidemment, ce mot est intéressant et la métaphore est porteuse quand il s'agit de désigner tout simplement le fait que, vous savez bien, la liste des bases pyramidiques sur l'ADN code les acides aminés, puisque un triplet de base correspond à un acide aminé, UAT, désigne, je ne sais plus quel, peu importe. Donc, effectivement, on peut dire qu'on a un codage. Déjà, la métaphore n'est pas mauvaise. Sauf que, quand on poursuit la métaphore et que l'on passe de l'idée du code à l'idée de grand livre de la vie, et que l'on passe de l'idée de décodage, c'est-à-dire de transcription du code, à l'idée de décryptage, c'est le mot qui court, on en dit beaucoup plus, et cette fois-ci, beaucoup. Le code génétique n'est pas un livre, au sens où sa signification n'est pas intrinsèque. Et là, je vous renvoie aux analyses tout à fait pertinentes qu'a fait Henri Atlan en particulier, dans lesquelles il montre les limites de cette métaphore et les abus considérables auxquels elle a donné, qui sont en pleine actualité cette fois-ci. Quand on vous a raconté il y a quelques mois qu'on avait décrypté le code génétique, c'est tout simplement faux. On l'a décodé au sens où on a une liste des bases, mais que, et donc on est capable, en face de chaque triplet, de mettre à quel acide aminé ça correspond. Nous ne savons pas encore regrouper ces acides aminés pour savoir quels sont les gènes correspondants. Nous sommes encore beaucoup plus loin de comprendre la mécanique des gènes. C'est-à-dire que nous avons grosso modo la liste des lettres pour suivre la métaphore du texte. Montrer à quel point elle est justement limitée. Nous avons la liste des lettres du texte, mais nous ne savons qu'à peine les regrouper en mots, et encore moins en phrases, et comme nous ne connaissons pas la langue dans laquelle c'est écrit, nous ne comprenons pas la signification de ces phrases. Et nous ne la comprenons pas parce que ce ne sont pas les phrases d'un livre. C'est parce que leur signification, l'expression, comme disent les biologistes, de ce code, dépend considérablement de son environnement. Il est épigénétique autant que génétique. Et donc, on voit là à quel point la métaphore du code génétique est porteuse de non seulement d'ambiguïté, mais de tromperie pure et simple, puisque c'est sur cette base-là qu'on va être amené à interpréter tout phénomène biologique comme un phénomène génétique. Et à vous expliquer que les comportements humains, qu'il s'agisse de, je ne plaisante pas, de la croyance en Dieu ou de l'homosexualité, correspondent à des gènes. Il y a un livre récent qui est paru aux États-Unis, qui est dû à un grand généticien qui s'appelle Dean Hammer, et qui s'appelle Le gène de Dieu, qui nous explique que la croyance en Dieu est probablement génétiquement sélectionnée. C'est avantageux pour la survie de l'espèce de croire en Dieu. Donc vous avez quelque part un gène qui vous prédispose. Vous voyez que là. Et ce n'est pas des sociologues, des philosophes ou des psychanalystes, ce sont des biologistes. Donc on voit bien à quel point là, l'utilisation incontrôlée de la langue, du mot, même si elle démarre sur une métaphore qui a son degré de validité, de pertinence, d'intérêt et de fécondité, si on n'en trace pas les limites, si on ne dit pas c'est une métaphore utile, mais précisément parce que ça n'est qu'une métaphore, c'est un abus de langage, nous ne pouvons pas éliminer les abus de langage, fonctionnant en permanence comme ça, soyons conscients de leur.
J'ai trois questions, quatre. Alors,
je voudrais faire une petite remarque concernant le passage d'un mot très technique dans le langage courant. Je pense au mot transistor et au mot laser. Ce sont deux mots qui sont passés dans le langage courant pour des motifs purement commerciaux. C'est beaucoup plus vendable de parler d'un transistor plutôt que d'un récepteur. La même chose pour le laser. Aujourd'hui, le laser, dans le langage courant, n'a plus tout la même signification que ce qu'on entend. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, le mot transistor, c'est, disons, un petit composant qui a des propriétés très connues. Mais enfin, bon, les gens ne savent pas tout ce que c'est, en fait.
Donc, quand on dit un disque laser, on voit bien. Non, vous avez tout à fait raison, ça, je crois que c'est un des éléments importants de la conjoncture actuelle, c'est la pression marchande qui s'exerce sur la langue.
Pour fructueuse que soit l'ensemble de vos observations, moi je crains quand même qu'elle banalise l'extraordinaire difficulté que l'on a à comprendre un certain nombre de concepts de la physique quantique en particulier, qui me paraissent quand même beaucoup plus difficiles que les découvertes du 19e siècle, qui avaient un côté... Bon, contre le sens commun, mais palpable. Et l'esprit ne demande qu'à assimiler et à intégrer, à faire sien les choses quand elles sont palpables. La physique quantique, c'est complètement impalpable, et c'est complètement contraire à un certain nombre de logiques qui sont ancrées en nous. Sinon, j'ai dit.
Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit, ou alors je me suis mal exprimé, je me suis mal fait comprendre, c'est possible. Qu'il suffirait d'être plus attentif aux questions de terminologie, de mots, de langue, pour rendre aisément et facilement compréhensible la physique quantique. Je ne pense même pas. Sinon, je n'aurais pas passé pas mal d'heures de travail à essayer de rédiger un manuel et beaucoup d'articles sur ce thème-là. Je dis simplement que la tâche est rendue encore plus difficile si on n'est pas attentif aux mots. Que donc, la première chose à faire, la condition nécessaire, nécessaire et certainement insuffisant, nous sommes bien d'accord. Et la condition nécessaire pour attaquer ces problèmes, c'est d'être attentif aux questions de langage, précisément à cause de la difficulté des concepts. Je vous donne un exemple que je n'ai pas traité, mais continuer à parler en termes, puisque c'est une des terminologies classiques de la physique quantique, de dualité onde corpuscule, rend beaucoup plus difficile la compréhension, parce que précisément de quoi s'agit-il ? Il s'agit de montrer que les objets quantiques sont tellement nouveaux que ce ne sont ni des ondes ni des corpuscules. Et continuer à les énoncer en termes de tantôt ondes, tantôt corpuscules, ou un peu ondes, un peu corpuscules, en gomme précisément, en masque l'originalité. On est typiquement dans un cas où là, il est fécond, me semble-t-il, c'est ma position, de créer un mot nouveau qui existe, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais un philosophe des sciences, Mario Book, a proposé, voici déjà de nombreuses années, de créer un mot générique pour désigner tous ces objets, d'appeler ça des quantons. Bon, alors, c'est un mot que je trouve bienvenu, parce qu'il généralise toutes ces entités particulières, les électrons, les photons, les protons, etc., etc., qui sont, comme le disait Richard Feynman, des objets qui sont complètement dingues, mais au moins ils sont tous dingues de la même façon. Alors, il mérite un nom générique, le proton est cette fois-ci bienvenu, précisément à cause de son absence de référence à un concret qu'il faut dépasser. Ceci dit, je réserve ma position sur le fait que, à mon avis, la première grande rupture, c'est quand même, elle précède la physique quantique, et je serai prêt, dans un autre contexte, à revenir sur l'idée que c'est vraiment l'apparition de la notion de champ, précisément impalpable, qui est le premier concept véritablement d'âme. Et que je me ferai fort de démontrer qu'encore aujourd'hui, une partie seulement, mais une partie des difficultés de compréhension de la physique quantique, lui est en fait antérieure. C'est parce que nos étudiants, les profanes, ou nous-mêmes d'ailleurs, physiciens souvent, n'avons pas encore bien compris la notion de champ classique, que nous éprouvons une partie des difficultés que nous éprouvons dans le domaine
technique. J'essaie de lire actuellement le parabole catastrophe de René Thom, et il propose, ça peut peut-être expliquer cet état de fait, que la science aujourd'hui est trop expérimentale, et que c'est peut-être... Il propose d'utiliser les mathématiques, bien sûr, pour former des théories. En gros, les scientifiques s'éloigneraient du processus qui permet d'arriver aux théories, de s'éloigner de la pensée des Grecs et de tous ceux qui les ont admirés jusqu'au 19e. Et donc, d'avoir perdu cette capacité, ou du fait de. Et ça
a donné.
Moi, je
ne
désespère pas, j'avais ça le courrier.
D'habitude, ce point, en quelques semaines, en quelques mois, apparemment, c'est d'ailleurs les relations que tu indiquais entre les médias, les.
C'est aujourd'hui, elles sont amplifiées et donc stabilisées par la médiatisation.
Oui. Brigitte. Attends.
J'ai une question relative à la nature de la science. Vous avez bien parlé de la biologie, de la physique, de l'astrophysique. Vous n'avez pas parlé des mathématiques. Or, les mathématiques, il y a tout un nombre de concepts, de mots extrêmement précis, dans lesquels justement, ils ont, c'est l'antithèse de ce que vous proposez, ils ont précisé les sens mathématiques abstraits du terme. Le résultat, c'est que même un scientifique qui lit un article de mathématiques modernes ne comprend absolument rien à ce qui est écrit. Donc, si on avait voulu développer la physique telle que vous l'avez souhaité, est-ce que vraiment on aurait eu l'accessibilité correspondante ?
Non, mais je n'ai pas dit qu'il y avait une solution miracle qui consistait à créer. Moi, j'ai même dit le contraire. J'ai dit qu'on était, me semble-t-il, qu'il était nécessaire de naviguer entre les deux écueils qui seraient d'un côté celui d'une terminologie complètement nouvelle et totalement abstraite, et de l'autre côté, au contraire, celle d'un vocabulaire uniquement emprunté à la langue courante et détourné. Il n'y a pas de solution miracle. Ce que je pense, c'est que chaque fois que nous faisons des choix, il faut que nous soyons conscients que ce sont des choix, que nous essayons de les faire avec le moins d'inconvénients possible, et que nous les discutions de la façon la plus explicite et la plus publique possible. C'est ça que je souhaiterais, qu'en particulier dans l'enseignement, on n'introduise jamais un mot sans expliquer comment il a été choisi, pourquoi, quels sont à la fois ses avantages et ses inconvénients, dans quelle mesure, si c'est un mot courant, dans quelle mesure le concept y correspond, dans quelle mesure il n'y correspond pas. Autrement dit, une activité, simplement une activité explicite et consciente de rapport à la langue.
Simplement une question pratique. Vous avez évoqué le fait que vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur la physique quantique, si j'ai bien compris. Pourriez-vous nous donner des références? Parce que c'est une question qui m'intéresse et je n'arrive pas à trouver un bouquin que je puisse digérer.
Je souhaite que le mien soit le nôtre, si il est connu, soit un peu plus digestif. Il s'appelle tout simplement Quantique, et c'est où terme titre, et il est édité chez Masson. Il est co-signé par Françoise Balibar et moi-même, mais il a été conçu comme un livre du niveau premier cycle, mais dont les premiers chapitres, tout au moins, sont délibérément, nous l'espérons, accessibles à un niveau qui est celui essentiellement de la fin du secondaire, et dans lequel nous avons fait un travail terminologique. C'est-à-dire, nous avons essayé de ne pas... Par exemple, nous ne parlons pas d'incertitude. Seul livre de physique quantique qui ne parle pas d'incertitude. Et d'introduire quelques autres vocables qui me paraissaient adaptés, tout en ayant évidemment à naviguer avec les usages acquis et les habitudes prises. On ne peut pas repartir à zéro, malheureusement.
Merci.
Bien, merci encore une fois, Jean-Marc.